Louer le Seigneur pour la technologie qui permet au sein le matin de, au sein d'Europe le matin de nous rejoindre et puis l'après-midi aux frères et sœurs de l'Est. C'est magnifique comme le Seigneur nous a parlé au sujet de son sanctuaire. Ce matin, nous voulons continuer au sujet du chandelier d'or. Peut-être que Freddy, tu peux nous montrer la première diapo. Comme on voit, comme on a vu jusqu'à maintenant, dans le lieu saint, il y a un arrangement très simple . On voit la table des pains de proposition d'un côté et le chandelier de l'autre côté. Et au milieu, il y a l'autel des parfums. Tout dans ce lieu saint, comme nous avons vu, inclut les planches sont en or. Et c'est vraiment la magnifique nature divine. C'est pas juste Christ. On prie que ce soit l'expérience de chacun d'entre nous, de Christ. Mais. Et ce lieu saint, c'est vraiment une image de notre âme, que le Seigneur aimerait transformer notre âme à son image. Et ce matin, on va partager au sujet du chandelier. Peut prendre l'image du chandelier dans les diapos qui ont été faites. Pendant qu'on attend, je continue. Super. C'est une magnifique image. Elle est plus précieuse que mille mots. Ça vaut la peine de prendre le temps de regarder ce chandelier d'or dans Genèse 1:1. Dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres étaient sur elle. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. En partageant au tout début de la conférence, il disait que tout ce qui est nécessaire dans la parole est déjà visible là dans Genèse. La lumière est la source de la vie pour tout dans l'univers. On connaît tous le système solaire. On sait que ça tourne autour du soleil. Mais ce qui tient l'univers ensemble, ce qui tient tout l'univers dans sa main, c'est Christ, le Fils. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui, ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, les choses visibles et invisibles, trône, dignité, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose demeure en lui. C'est l'image de notre magnifique Christ. La lumière donne la vie. Tous les étudiants en sciences connaissent ce terme de photosynthèse. C'est un principe simple de biologie. Il dit en chinois ce que c'est. Ça devrait être appelé en fait photogenèse si on était scripturaire. et dans Dieu a dit à Moïse, tu dois aussi faire ce chandelier d'or pur. Il doit être fait d'or battu. Exode 25. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Imagine si tu regardes, quand tu regardes ce chandelier, il est fait entièrement d'une seule pièce. Et la forme de ce chandelier ressemble à un arbre. Il y a la tige centrale comme un tronc et les six branches, trois de chaque côté, avec comme des amandes, des fruits, des calices, des fleurs. Ça montre la pleine puissance de la résurrection de Christ. On a partagé cela déjà ces derniers dimanches à Fountain Valley. Et dans Zacharie 4, verset 2, de nouveau, on a l'image du chandelier. Et il me dit, que vois-tu? Alors je dis, je regarde. Et il y a un homme. Et cette lampe. Et il y a deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Zacharie 4, 1 à 3. Louez le Seigneur pour cette magnifique image. Amen. De l'huile fraîche qui coule dans ces tuyaux. C'est une image de l'esprit. La lumière ne peut venir non par moi-même, non. Ah, le Seigneur dit, c'est au verset 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit. Sans esprit, sans huile, il n'y a pas de lumière. Et s'il y a plus d'huile fraîche, il y a plus de lumière et une lumière fraîche. Les sacrificateurs devaient tenir, prendre soin dans le lieu saint, non seulement des pains de proposition, mais aussi d'approvisionner en huile pour que le chandelier ne s'éteigne pas. C'est une image de la lumière de la vie. Dans Jean 1, 4, il dit « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Ça parle de Christ. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc Christ est la réalité de ce chandelier. Ésaïe 9, 2 nous dit, le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui marchaient dans l'ombre de la mort parle de nouveau en parlant à Ésaïe aussi. Ce peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient dans les ténèbres de l'ombre de la mort ont été éclairés. Ah oui, il y a la lumière, il y a la vie. Et avec les ténèbres vient la mort. Ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, c'est les ténèbres du dehors. Ils ne sont pas juste assis dans les ténèbres, mais ils marchent dans les ténèbres. Ils protestent, ils montent dans les ténèbres, ils courent, ils dirigent les gouvernements dans les ténèbres. Même les juges sont aveugles. C'est des aveugles qui dirigent des aveugles. La parole nous dit qu'on était tous dans les ténèbres. Les ténèbres signifient qu'on ne sait pas d'où on vient. Et quand on n'a pas d'idée, non, et on n'a pas non plus d'idée où on va. Comme des bébés. Nous sommes formés dans les ténèbres du ventre de notre mère. Je ne sais pas si vous savez, mais les enfants, quand ils naissent, les bébés naissent pas avec une acuité visuelle parfaite. Et dans leur développement, les enfants qui naissent prématurés peuvent avoir une rétinopathie du prématuré. C'est la cause principale de cécité chez les enfants. La lumière et la vie vont toujours ensemble. J'ai pas entendu la référence. Je suis née dans l'iniquité et ma mère m'a conçue dans le péché. C'est dans le psaume 51. On est tous nés aveugles. Et jusqu'au jour où on est sauvé, on ne sait pas qu'on est aveugle. C'était psaume 51, verset 7. Le chant grâce infinie. Il parle de ça. C'est bon pour nous de savoir d'où on vient. Éphésiens 2, 2, il dit, vous marchiez selon le train de ce monde, suivant le train de ce monde, dans la désobéissance. Éphésiens 2, 2. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Parfois, on développe une myopie spirituelle. En tant que chrétien. Et c'est ce qui se passe dans tant de lieux. Pourquoi les gens en consacrent tellement pour un bâtiment qui ne leur appartiendra jamais et où ils vont juste une ou deux fois par année? Pourquoi est-ce qu'on suit des personnes qui nous disent seulement ce qu'on veut entendre, c'est les ténèbres. C'était intéressant de voir à Pâques ce Vatican vide pour le dimanche de Pâques. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il a oublié le pardon de ses anciens péchés. C'est pourquoi le premier aspect de la constitution du royaume, c'est heureux les pauvres en esprit. C'est une grâce de savoir notre véritable condition, de savoir que nous sommes aveugles. Et si nous sommes pauvres en esprit, alors nous recevons le royaume. Dans Apocalypse 3, 17, un frère a partagé à ce sujet. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, par le feu. Amen. Regardez combien d'or il y a dans ce chandelier, combien d'or nous avons. Le Seigneur nous conseille d'acheter de l'or, pas juste n'importe quel or, mais de l'or éprouvé par le feu, un or pur, sans mélange, sans défaut, afin que tu sois riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Par la grâce du Seigneur aujourd'hui, nous savons aussi où nous allons. Nous avons une magnifique destinée. Romains 8, 29 nous dit. Celui qui nous a appelés nous a aussi convoqués à être conformes à son Fils. Lui qui nous a prédestinés nous a aussi appelés. Il nous a aussi appelés, il nous a aussi justifiés. Et s'il nous a aussi justifiés, il va aussi nous glorifier. Il veut nous amener à la gloire. Et dans Colossiens 3, 3, il dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Louez le Seigneur, nous avons une magnifique destination. Et même mieux, dans Apocalypse 1, 5, il nous dit « Et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » On connaît tous ce verset. « Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Notre destinée est d'être des sacrificateurs et rois. C'est la destinée que Dieu a prévue pour nous. Peu importe d'où on vient, on doit poser la question la plus importante. Seigneur, montre-nous aujourd'hui comment arriver à ce lieu. C'est le but du chandelier, c'est pour nous montrer comment marcher dans la lumière. Allons dans Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Pour qu'on voit la lumière, on a vraiment besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. C'est si bon de savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est vous et moi. C'est nous les saints. Amen. Frères et sœurs, est-ce que nous croyons? Nous devons l'appliquer dans notre vie quotidienne, en accord avec cette parole. Amen. Versets 19 et 20. Nous devons être ressuscités avec Christ. Et voir. Est-ce qu'on est juste assis chez nous, dans notre salon, même à la salle de réunion? Ou est-ce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes? Que le Seigneur nous aide à expérimenter ces versets en réalité. Il a mis toutes choses sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. À nouveau, c'est nous qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que le Seigneur nous soit miséricordieux pour voir l'importance de voir les choses d'accord avec lui. On a besoin de ce chandelier pour le voir. Le voir doit être au travers de notre foi. Que le Seigneur nous donne beaucoup de sagesse et de révélation. Pas une sagesse humaine pour connaître et analyser au sujet de ce chandelier et savoir tellement. Mais que le Seigneur ouvre vraiment notre intelligence. Cette année 2020, on a besoin dit par en anglais, ils ont aussi une expression de croire par la vue. Tous ces exemples de foi, ils ont vu et c'est ça qui les a amenés aussi à croire. C'est bon pour nous de voir, mais c'est pas suffisant juste de voir. La lumière est aussi pour nous amener à marcher dans la lumière. 1 Jean 1, verset 7, 5. À Fontainevallée, on est allé au travers 1 Jean et c'est magnifique comme le Seigneur nous a parlé. C'est un message qu'on a. C'est magnifique comme le Seigneur nous a parlé par 1 Jean 1. C'est une parole qu'on a entendue. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Jean est très simple et direct, il va droit au but. Mais si nous sommes dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'avait pas cette image du tabernacle sous les yeux, mais il écrit cela. On voit qu'en fait, il a la réalité de ce tabernacle. Il avait vu cela. Et non seulement il l'a vu spirituellement, mais il marchait dans cette lumière. Dans Psaume 119, il dit « Ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » 105. Il nous montre les choses là où il veut nous amener. On peut vraiment le louer parce qu'il nous a donné tellement de lumière au sujet des offrandes, au sujet des fêtes, au sujet de la sanctification, de la sainteté, et tous les détails. Pas juste pour savoir, dans le but de savoir, mais pour marcher, pour vivre, pour pratiquer et appliquer tous ces principes. Et pour la vie de l'Église, corporativement. Amen. 2 Corinthiens 3, 18 dit « Tous le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. » Amen. Par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur désire avoir notre foi dévoilée pour qu'on le contemple. Prends le temps de le contempler. En regardant à ce tabernacle, tous ces détails, les matériaux qu'on a vus, on va voir la gloire du Seigneur. Regarde cette image. Est-ce que tu ne vois pas la gloire du Seigneur? Ça va nous changer, ça va nous transformer. Ça a changé Moïse. Ça a changé Paul, Pierre, Jean. Que le Seigneur nous transforme aussi. Notre âme doit être changée. Nous devons être renouvelés, aimer ses commandements, aimer le lieu où il habite, qu'il nous sanctifie complètement. Que notre esprit, âme et corps soient conservés irréprochables pour sa venue. Après la conférence de fin d'année à Fountain Valley, en décembre, après qu'on ait dit au revoir à tous les frères et sœurs, pendant que quelques-uns d'entre nous réorganisions la salle, comme d'habitude, j'étais à côté de John et j'ai remarqué que quelque chose était dans sa tête, il avait quelque chose en tête. Et j'avais entendu qu'il y avait quelque chose qui se tramait du côté de la Chine. On savait déjà que le gouvernement chinois était en train de cacher quelque chose d'important. Quelques jours après, à la réunion de prière, à Fountain Valley, on avait encore quelques-uns des invités avec nous. On a prié avec puissance. Père, secoue dans cette année 2020. On n'imaginait pas combien d'ébranlements le Seigneur allait nous donner. Cette pandémie, la manière dont cette pandémie s'est transmise partout dans tous les pays. Là, en juillet 2020, on est toujours en pleine secousse. Il continue de secouer au travers de ce virus. Partout, dans tous les continents, dans tant de pays. Et c'est pas juste une secousse au niveau sanitaire, mais c'est aussi un tremblement de terre économique. Et au milieu de toutes ces secousses, le Seigneur veut accomplir son plan pour finir cet âge. J'espère qu'on mise vraiment sur ce cheval blanc, à celui qui est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Seigneur, au travers de ce verset, m'a montré ce qu'il fait. Il utilise cette pandémie pour exposer l'iniquité, les ténèbres des gouvernements. La démocratie arrive à sa fin. Tous les leaders en Chine, en Russie, les dynasties sont secouées, les gouvernements sont secoués. Ça montre que le Seigneur secoue vraiment. Et on voit qu'il est en train de continuer son œuvre au travers du président américain. On a tous le sentiment que nous avons vraiment besoin de ce chandelier. L'Église doit être la réalité de ce chandelier aujourd'hui. On a besoin de demander pas à pas, Seigneur, accorde-nous cette lumière. S'il te plaît, montre-nous plus de choses, des choses plus élevées, des choses nécessaires pour notre préparation et pour l'accomplissement de ton œuvre. Et nous prions pour que ce traité en Israël soit signé cette année. Peu importe à quel point les choses vont être difficiles, vraiment compris pour le royaume et le sacerdoce, pour que tout soit vraiment mûr, pour que le Seigneur revienne. Oui, le Seigneur, c'est pas un conte de fées, c'est pas un rêve. Mais c'est l'accomplissement de ce qui est dans la parole de Dieu. Si le Seigneur ne nous amène pas à ces étapes finales, quand Dieu commence dans Genèse, à tout ce que le Seigneur commence dans Genèse se termine dans Apocalypse. Et Apocalypse 21 et 22 dit il n'y avait plus de temple, car l'agneau lui-même et son temple. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ça, c'est le plan merveilleux de Dieu. Et c'est vraiment l'image de ce chandelier que le Seigneur nous montre plus de choses, les choses qui sont nécessaires pour l'accomplissement de son plan divin. Amen. Il y a un ameublement très précieux dans le lieu saint. Rien n'est digne d'être dans les ténèbres. Dans 1 Jean. On sait que Jean était très attaché à la vie, à l'aspect de la vie. On le voit tellement au sujet de la vie éternelle dans son évangile. Dans Jean 8, le Seigneur a dit: Je suis la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Dans son épître ensuite, comment savoir quelle est cette vie? La première chose qu'il mentionne, c'est que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. La lumière est très importante. Quand il y a une coupure électrique et qu'on n'a plus aucune lumière, tu es incapable de faire quoi que ce soit chez toi. La lumière est très importante. Très souvent, dans notre marche quotidienne, on a besoin de regarder comment est-ce qu'on marche. Il n'y a pas de doute que le monde est dans les ténèbres spirituelles. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? Quand Jean dit qu'il n'y a point de ténèbres en lui, si on regarde en nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, que fait-on au travail, dans la famille, à la maison, ou si on est seul, combien de ténèbres y a-t-il encore en nous, qui règnent en nous? Notre frère a mentionné Genèse 1, que Dieu a créé la lumière. Les ténèbres représentent l'autorité de Satan. Ça, c'est les ténèbres. Et Dieu est droit à l'opposé. Lui, il est la lumière. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Quand il a créé la lumière, il l'a séparée des ténèbres. Et il a appelé la lumière le jour et les ténèbres la nuit. Aujourd'hui, on connaît tous. Il y a le lever de soleil, le coucher de soleil, et puis la nuit apparaît. Et on va au lit. Seulement, ces personnes mauvaises qui ne veulent pas que les autres voient ce qu'ils font, eux, ils s'activent la nuit. Mais dans 1 Jean, il dit: si nous disons que nous avons de la communion avec lui, ça veut dire que cette personne est sauvée. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas sauvé va dire qu'il a de la communion avec Dieu? Seulement nous, chrétiens, on ne peut pas marcher dans les ténèbres. Les ténèbres sont là jusqu'à ce qu'on reçoive sa vie. Et on peut encore être dans les ténèbres. Si nous disons que nous avons la communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, je crois que beaucoup d'entre nous vont confesser. Nous avons beaucoup de choses à cacher devant Dieu. Qui peut dire qu'il n'a rien à cacher? J'aime pas poser cette question, lever la main. Non, ne levez pas la main. Mais on doit vérifier avec nous-mêmes. Est-ce que j'ai des choses à cacher dans mon cœur? Que je veux que personne ne sache. Mais à Dieu, tu ne peux pas le cacher. Rien n'est caché à ses yeux. Ça peut être caché aux yeux de beaucoup de personnes. Même pour moi-même, des fois, je ne sais pas que c'est là. Tous les parasites, ils aiment se cacher dans les ténèbres. En soudain, il y a de la lumière dans les ténèbres, on voit beaucoup de choses qui courent dans tous les sens. Si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Tous les mensonges sont un signe de ténèbres. Et nous, les chrétiens, les croyants, devrions être la lumière du monde. Le Seigneur dit: vous êtes la lumière du monde. Nous sommes. Mais à quel point? Ça dépend. tu veux que ta... Ah, quand tu achètes une ampoule, laquelle est-ce que tu achètes? Si tu es dans un lieu étrange, tu vas acheter une lampe la plus faible possible. Mais si tu veux avoir de la lumière chez toi, alors tu vas acheter une ampoule qui brille. Nous avons besoin de cette lumière qui explose dans nos cœurs. Nous devons demander au Seigneur, Seigneur, fais briller ta lumière sur moi. Avons besoin de la lumière. Peu importe où on est, à la maison, les parents doivent être la lumière pour les enfants. Christ, en tant que la lumière, brille sur chacun de nous. Même pour moi-même, j'ai besoin d'être cette lumière. Sinon, quand le Seigneur apparaît, alors on va tous être dans la honte. Il y a un chant qui dit les choses dont nous sommes honteux. Tout ce que nous faisons dans les ténèbres et que nous voulons cacher, pourquoi veux-tu les cacher? Parce que tu ne veux pas que ce soit vu. Peut-être que les autres ne savent pas, mais toi et moi savons ce que nous faisons. Ne me laisse pas être honteux. On a ce chant. Combien de fois nous sentons honteux? Peut-être que les gens ne l'ont pas vu, mais qu'en est-il du Dieu vivant? Le Dieu vivant qui sonde l'être intérieur. Il dit qu'il n'y a rien de caché à ses yeux. Où voudrais-tu te cacher? Si tu descends, il est là. Si tu montes au pôle Nord, il est là. Si tu vas de l'autre côté de la mer, il y est. Je ne sais pas où me cacher. Aucun lieu où nous cacher. Et si nous disons que nous sommes dans l'esprit, nous sommes dans l'esprit. J'ai entendu ça pendant tellement d'années. L'esprit est la clé. L'esprit, l'esprit. Tu sais, dans Proverbe, il dit que l'esprit de l'homme doit sonder notre être intérieur. Alors, qu'en est-il? Est-ce que je dis que je marche par l'esprit, mais à l'intérieur, tant de choses sont cachées, des choses dont j'ai honte? Si c'est sombre, on ne peut pas tant se cacher. Si tu es une personne paresseuse et pas très propre, tu laves de nuit et lumière éteinte, alors tout est propre. Mais en fait, c'est juste que tu es dans les ténèbres. Si tu as juste une ampoule de 10 watts, tu ne vois rien. Mais si nous sommes dans la lumière, on commence à voir, oh, la saleté est là. Tu vas devoir aspirer tout ce qui est sous le tapis n'est pas vu. Mais si tu soulèves le tapis, tu vas te dire, oh là là, toutes ces choses. une personne qui a l'habitude d'aspirer, elle va soulever le tapis pour aspirer dessous. Si tu ne vois pas, ça ne signifie pas que c'est pas là. Avec le temps, on n'est plus conscient de ce qui est caché dans nos cœurs. Ce qu'un homme pense. Comment tu te sens dans ton cœur? Je peux avoir désapprouvé ce que disait le frère, mais j'ai rien dit. Mais c'est quand même dans mon cœur. Ne pas critiquer est bien, mais c'est ça ne signifie pas que tu n'as pas pensé une critique. Garder le standard de la loi. Est-ce que l'un d'entre nous a tué quelqu'un? Non, nous n'avons jamais tué personne. Mais le Seigneur juge d'une manière différente. Si tu as détesté, si tu as haï ton frère, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Tu dis que tu ne commets jamais d'adultère. Mais si j'ai cette pensée dans mon cœur, alors le Seigneur dit, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Tu n'as peut-être pas le courage de le faire, mais ce désir dans ton cœur, c'est les ténèbres. C'est des ténèbres potentielles. Donc on a besoin avant tout de cette lumière pour briller en nous. Le meilleur moyen d'expérimenter cette lumière, c'est d'entrer dans la parole, qu'elle soit écrite dans nos cœurs, que ce ne soit pas une doctrine, mais d'entrer dans la parole. Pas juste dans notre connaissance, oh je sais, mais la laisser entrer dans les profondeurs cachées de notre cœur. Elle va nous laver et nous soigner. Crie au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Soigne-moi, pardon. Comme le frère a partagé. La lumière soigne. Elle tue beaucoup de germes et de parasites. La lumière est importante pour notre santé. Et Dieu est lumière. D'un côté, on dit, vous êtes la lumière du monde. D'un autre côté, cette lumière et sa lumière doit agir en nous. Et Jean parle de la communion avec le Père et le Fils. Cette communion doit être dans la lumière. Dieu est lumière. Et si nous avons de la communion avec Dieu, mais que nous sommes encore dans les ténèbres. Dans nos situations, pas forcément extérieurement, mais à l'intérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Notre communion avec Dieu va exposer et briller dans nos cœurs. C'est très important. Et alors, le résultat va être une communion les uns avec les autres. Mais si nous ne sommes pas dans la lumière, alors il n'y a pas de véritable communion. Alors, je ne veux pas avoir de communion avec toi et toi avec moi. On se dit juste, ah, salut, salut, bonjour, au revoir. C'est tout. Salut, comment vas-tu? Amen, salut, à bientôt. la semaine prochaine. Il n'y a pas de véritable communion. Pas de véritable communion. Et comme notre frère a aussi partagé, nous avons besoin vraiment de voir ce que Dieu fait aujourd'hui. Quelle est la volonté du Père? N'aimes-tu pas en tant que chrétien? N'as-tu jamais demandé, Père, quelle est ta volonté? Parce que le Seigneur dit dans Matthieu 7, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Aujourd'hui, il y a tant de groupes de chrétiens. As-tu déjà demandé à Dieu quel est ton lieu de repos? Comment tu choisis? J'aime aller à tel endroit parce que le pasteur fait des blagues et tout le monde rigole. J'aimerais témoigner ce que ma sœur aînée m'a dit un jour de la dénomination où elle est. Un jour, le pasteur a dit le divorce n'existe pas. Donc tant pis si tu t'es marié avec la mauvaise personne. Mais je vais te montrer un moyen. Prie. Et vous savez ce que le pasteur a dit de prier? Prie que ton partenaire meure tôt. Ensuite, tu es libre. Peux-tu imaginer un pasteur qui dit une telle parole et qui donne un tel conseil? Est-ce que ça peut être l'Église? C'est des paroles dans les ténèbres. J'ai dit à ma sœur, mais pourquoi tu vas encore là? Pourquoi tu me dis ça et tu continues d'aller là? Si tu es dans un tel lieu et tu entends ça, tu devrais te lever et dire au pasteur, tais-toi et partir. Ce n'est pas la maison de Dieu, c'est une maison des ténèbres, la maison du diable. Il n'y a pas de lumière, il n'y a vraiment que des ténèbres. Et ces personnes qui l'écoutent, ils ont tous ri, mais ils sont tous dans les ténèbres. Seigneur Jésus, ce n'est pas juste celui qui parle qui est dans les ténèbres, mais tous ceux qui sont assis là et qui rigolent, comme si c'était une bonne blague. Ce n'est pas une bonne blague. C'est une blague malade. C'est une blague sombre. Un chrétien ne devrait pas être comme ça. On parle maintenant de ce magnifique tabernacle. J'espère que nous avons tous, en allant à la maison, cette prière, Père, où est ce tabernacle? Je veux m'y trouver. N'écoutons pas juste à cette conférence, puis on retourne à la maison et on retourne à Babylone. Sinon, cette conférence ne signifie rien pour nous. Mais si tu reçois la lumière du Seigneur au sujet de ce magnifique tabernacle, pas à cause de nos messages, mais si tu as la vision de ce magnifique tabernacle, alors quand tu rentres à la maison, tu as cette prière, je veux être dans ce lieu. Amen. Louez le Seigneur.